Bonjour Adam Bailly.
Bonjour Nicolas.
Très heureux de vous retrouver pour ce focus sur l'actualité de l'Union européenne, comme tous les 15 jours sur RCF. Je rappelle que vous êtes le responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour citoyens et territoires Grand Est. Vous avez sélectionné trois actualités. Aujourd'hui, il sera question de l'armistice du 11 novembre. Est-il férié dans tous les États membres? Vous répondrez à cette question. On parlera de l'élargissement aussi. Quels sont les prochains pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne? Enfin, comment le Parlement européen renforce ses règles de transparence depuis le scandale du Qatargate? Et il y a beaucoup de choses à dire. Mais on commence donc par l'armistice. Le 11 novembre, c'était il y a quelques jours déjà. Mais vous souhaitiez répondre à une question qu'on peut se poser effectivement. Est-ce que le 11 novembre est férié dans tous les États membres?
Il faut déjà savoir que la Première Guerre mondiale a duré 4 ans, 3 mois et 14 jours. Ce n'était pas une guerre entre seulement la France et l'Allemagne, loin de là. Il y a eu des combats sur tous les continents et avec pratiquement tous les pays. En Europe, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco n'ont pas participé à cette guerre et ont eu assez peu de répercussions. Tous les autres pays européens ont pris part pour un camp ou un autre. L'Union européenne s'étant construite pour établir la paix sur les territoires européens après les deux guerres mondiales, il est légitime de se demander ce que signifie le 11 novembre dans les différents pays européens.
Eh bien, merci pour ce préambule, Adam, mais je vous repose la question. Quels sont les pays où le 11 novembre est férié?
Seuls la France, la Belgique et la Pologne. D'autres pays commémorent cet événement sans pour autant en faire un jour férié. L'Italie, elle, a un jour férié, elle fête la victoire de la Première Guerre mondiale, mais le 4 novembre, qui est la journée de l'unité nationale et la journée des forces armées.
Et dans tout ça, qu'en est-il de l'Allemagne?
Et en Allemagne, le 11 novembre n'est pas célébré et encore moins férié. L'armistice de 1918 n'a pas de signification pour les Allemands. Cette date n'est pas inscrite dans la culture politique fédérale, nous dit Arndt Weinrich, chargé de recherche à l'Institut historique allemand à Paris. La Grande Guerre ne parle pas aux Allemands, pour qui elle n'a pas le même impact que la Seconde Guerre mondiale ou même la Shoah. D'ailleurs, peu de place est réservée à la Première Guerre mondiale dans les programmes scolaires dans ce pays. Et pour nos voisins, le 9 novembre est une date beaucoup plus symbolique qui fait référence au pogrom qui s'est produit à la même date en 1938, au coup d'état d'Adolf Hitler en 1923, mais également à la chute du mur de Berlin en 1989. En Allemagne, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe en France le 11 novembre, explique le chercheur. Pour les Allemands, commémorer la victoire de la France sur l'Allemagne s'apparente à renouveler le patriotisme. Cela passerait mal en Allemagne. Les événements en faveur de la paix et de l'Europe le parlent beaucoup plus.
En fait, c'est une journée davantage axée sur la réconciliation en Allemagne.
Exactement. Donc l'ancien président Nicolas Sarkozy a voulu en 2009, avec la chancelière Angela Merkel, apporter sa pierre à l'édifice franco-allemand en voulant que le 11 novembre devienne une journée de réconciliation franco-allemande pour bâtir un avenir partagé. D'ailleurs, le jour J, les deux responsables politiques avaient rallumé ensemble la flamme de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Mais on peut voir que les discours de la chancelière et du président français avaient montré que la mémoire de la Première Guerre mondiale était fondamentalement différente entre les deux pays. Donc alors que Nicolas Sarkozy avait axé son discours sur le conflit, la chancelière allemande avait insisté sur les leçons à tirer des deux grandes guerres du XXe siècle pour la construction européenne.
Mais on comprend que pour nous en France, la Première Guerre mondiale a un impact bien plus important et ça nous marque d'autant plus en Lorraine, on va dire.
Exactement, oui, tout à fait.
On va passer à la deuxième actualité, Adam. L'élargissement de l'Union européenne, où en est-on ?
Eh bien, dans son rapport annuel sur l'élargissement, l'exécutif européen a donné son feu vert à une nouvelle étape en vue de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Mi-décembre, les 27 décideront s'ils suivent ou non cette recommandation. Il faut déjà savoir que 27 pays sont membres de l'Union européenne, 8 États sont officiellement reconnus comme candidats, tandis que 2 autres ont fait leur demande d'adhésion. À l'inverse, 3 pays ont abandonné l'idée d'adhérer.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler au passage les pays membres de l'Union européenne ?
L'Union européenne se compose de 27 États membres. Ces derniers ont intégré l'Union européenne au cours de 7 vagues d'élargissement. Le Danemark et l'Irlande et le Royaume-Uni en 1972, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986, l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995. Attention, là, c'est 10 pays qui rentrent en 2004 avec Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. la Bulgarie viennent ensuite en 2007 avec la Roumanie et la Croatie en 2013. Il faut rappeler aussi qu'en 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne.
Oui, donc jusqu'en 2020, c'était l'Europe. Enfin, entre 2013 et 2020, c'était l'Europe des 28.
Exactement.
On est repassé donc à l'Europe des 27. Et on pourrait passer, si mes comptes sont bons, à l'Europe des 35, puisque 8 pays veulent rejoindre l'UE.
Eh oui, Nicolas, aujourd'hui, 8 pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. Et pour 4 d'entre eux, les négociations ont débuté. Les négociations d'adhésion avec la Turquie ont débuté le 3 octobre 2005, mais sont suspendues depuis 2019 en raison de la dérive autoritaire du régime. Le pays avait même obtenu son statut de candidat en 1999. Le Monténégro a pour sa part obtenu le statut de candidat en 2010 et a débuté les négociations d'adhésion en 2012. Donc le pays candidat depuis 2012 et la Serbie depuis 2014. En juillet 2022, c'est au tour de la Macédoine du Nord et de l'Albanie d'obtenir une ouverture de ces négociations. Le premier était officiellement candidat depuis 2005 et le second depuis 2014. Quant à l'Ukraine et à la Moldavie, ils sont quant à eux officiellement candidats depuis juin 2022.